Depuis plus d'un demi-siècle, une petite ville dans l'état du Rhode Island, à une centaine de kilomètres au sud de Boston, est le théâtre d'un des plus importants rendez-vous de jazz au monde. Fondé en 1954, le Festival de Newport a accueilli tous les grands noms du jazz sur sa scène, et de nombreux enregistrements live qui en sont issus sont depuis entrés dans la légende. Pendant de telles occasions, on ne s'étonnerait pas de croiser dans la rue ou les bars locaux des Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et autres Duke Ellington. Lors de l'édition de 1960, nombreux habitants et festivaliers ont pu apercevoir Charlie Mingus, alors que pourtant, ce dernier n'était même pas à l'affiche. Mais Mingus sait se faire remarquer, et cette année-là, il a un message à faire passer. Imaginez un peu la scène. Le corpulent bassiste arpentant les rues de Newport, debout sur la plage arrière d'une voiture décapotable, jouant de la contrebasse et exhortant les passants médusés. « Venez au festival, leur dit-il, mais pas celui que vous croyez. » Voici l'histoire des rebelles de Newport et l'anti-festival de 1960. Je m'appelle Luxi Bright et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. Mingus avait connu son baptême de la scène de Newport 4 ans auparavant, en 1956, la même année qu'Ellington donne le concert légendaire qui revitalise sa carrière. Mingus connaît donc déjà le directeur artistique du festival, l'impresario américain George Wynn. Lors de l'édition de 1960, ce dernier le réinvite au festival, mais lui propose la maigre somme de $700 pour son groupe entier. Mingus refuse de jouer pour moins de $5000. Wynn refuse à son tour. Mingus décide alors d'organiser un festival alternatif avec son fidèle complice, Max Roach. Les deux rebelles arrivent à rallier à leur cause une sympathisante précieuse, Elaine Lorillard, cofondatrice du festival, mais qui avait récemment été expulsée du conseil d'administration et poursuivait en justice ses membres, dont son ex-mari. Ils choisissent le Cliffwalk Manor Hotel pour accueillir l'événement. mais tout reste bien évidemment à faire. On délimite une enceinte avec des clôtures par neige, on construit une scène de fortune, on assemble 500 chaises empruntées dans des pompes funèbres, on monte un camping pour les artistes, et Mingus part faire de la publicité en décapotable. Plusieurs photos ont survécu de l'événement, dont une mémorable d'Eric Dolphy dans le campement, appelée Tentsville par ses habitants, assis nonchalamment sur une chaise jouant de la clarinette basse. De nombreux musiciens, des anciens comme des jeunes, de Coleman Hawkins à Charlie Hayden, en passant par Art Taylor, viendront rejoindre les rangs des rebelles. Et même le célèbre danseur de claquettes, Baby Lawrence, sera de la partie. Une autre photo existe, d'un des concerts où on l'envoie sur scène Charlie Mingus, le trompettiste Kenny Dorham, Max Roach à la batterie et au saxophone. Celui-ci est blanc et en plastique, si cela peut vous donner un indice. Nul autre que Ornette Coleman. Ornette Coleman, le grand pionnier du free, lui-même dont les fameux concerts au Five Spot il y a moins d'un an avaient laissé Mingus perplexe. Ce dernier avait dit de la musique de Coleman « Si les mecs du Freeform pouvaient jouer le même morceau deux fois, alors je dirais qu'ils jouent quelque chose. Mais la plupart du temps, ils utilisent leurs doigts sur le saxophone et ne savent pas ce qui va en sortir. » Mais ce concert à Cliff Walk, la seule fois qu'ils ont joué sur scène ensemble, témoigne aussi du respect que Mingus avait pour la musique de Coleman. Il a d'ailleurs indéniablement été influencé par lui. Il n'est pas anodin que la même année, il monte un nouveau quartet avec Danny Richmond, Ted Curson et Eric Dolphy, dont le format est identique à celui de Coleman, et avec lequel il enregistre un album Charles Mingus Presents Charles Mingus. Le premier jour du festival, on ne compte qu'une petite vingtaine de personnes dans le public, mais grâce aux bouches à oreilles et les vociférations de Mingus, cela finit par prendre de l'ampleur, et à la fin, chacune des 500 chaises sera remplie. Le journaliste et critique Nat Hentoff se souvient du bassiste criant lors d'un des concerts. Voilà ce que devrait être vraiment le festival de jazz de Newport. C'est une victoire importante pour Mingus. D'autant que le festival de Newport connaît des soucis de son côté. Des jeunes étudiants dont l'accès avait été refusé au concert provoquent des émeutes. Ce qui causera d'ailleurs l'annulation du festival l'année suivante. Au-delà d'une confrontation personnelle avec George Wynne, autour de son cachet d'artiste, il s'agissait pour Mingus de protester contre la commercialisation du festival, mais aussi de dénoncer un système qui, selon lui, exploitait les artistes, principalement noirs, qui innovaient dans le monde du jazz. Selon l'historien John Gennari, Mingus ne cherchait pas seulement à se rebeller, mais aussi à créer et nourrir un environnement et un public pour une forme d'expression artistique subtile, aventureuse et innovante. C'est pour cette raison que Mingus et Roach ont toujours insisté qu'il ne s'agissait pas tant d'une rébellion, mais plutôt d'un retour aux sources, un retour à la mission et la philosophie originale de Newport. Et ceci en gardant le pouvoir décisionnel dans les mains des artistes et non des promoteurs. Chose qu'ils ont su faire, puisqu'à Cliff Walk, ce sont les musiciens qui ont tout organisé. Mingus allant jusqu'à récolter dans une canette des contributions de la part des spectateurs curieux de l'autre côté de la clôture. Cet esprit d'entreprise et la volonté de mener ses combats Mingus en fera preuve tout au long de sa vie. Justement, la semaine après le festival, il fonde avec Roach et Joe Jones le Jazz Artists Guild, un collectif avec pour mission de promouvoir l'autosuffisance économique et artistique en donnant le contrôle aux musiciens et en partageant équitablement les profits, sans recours à des intermédiaires. Parmi les premières initiatives de l'association, on compte une session d'enregistrement en novembre 1960 avec certains des musiciens ayant participé au festival, qui lui ne fut malheureusement jamais enregistré. Un album sortira sous le nom de Newport Rebels, et y figurent notamment Eric Dolphy, Jimmy Knepper, Abby Lincoln, Kenny Dorham, Joe Jones, Tommy Flanagan et le grand trompettiste Roy Eldridge. Ce dernier avait hésité dans un premier temps à rejoindre les rebelles. Mes jours de combat sont derrière moi, plaidait-il. Mais la détermination de ses amis musiciens le persuade, et il ira même remercier Mingus en personne après les enregistrements, lui disant « Je suis content d'avoir fait ça. Je voulais savoir de quel côté tu te trouvais, et je sais désormais que t'es du bon. Je ne veux pas pointer du doigt, mais trop de jeunes passent leur temps penchés sur leur instrument et oublient les bases. Ils ne vont pas dans le fond de la musique. Toi, oui, c'est bon à savoir. » Il s'agit pourtant de la seule et unique fois qu'ils enregistrent ensemble. Mais quel honneur pour Mingus de recevoir ces louanges d'un artiste qu'il admire énormément. Le Jazz Artists Guild ne fit pas long feu, mais inspira de nombreux artistes à lancer des initiatives similaires. Le festival de Clef Walk fut lui aussi éphémère, bien que Mingus et Roach aient conçu le projet dans l'optique qu'il soit récurrent. Lors de la prochaine édition de Newport, en 1962, Max Roach et Mingus se produiront ensemble sur scène, et ce dernier sera même invité pour participer à une table ronde intitulée « L'économie de la communauté jazz ». À croire que leur message ait été entendu, au moins partiellement, par les dirigeants du festival. Thank you.